cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 26 juin 1991.
Puisque nous avons vu le point de vue de la volonté par rapport à l'intelligence. Comprenons qu'il y a encore quelques problèmes qui seraient très importants de se poser au point de vue de la philosophie du vivant. Le premier, c'est de se poser la question, est-ce que la philosophie du vivant nous permet de découvrir que l'âme, après la mort, continue de subsister. Autrement dit, après avoir vu l'étude de la philosophie du vivant, il y a une grave question, c'est la mort. Là, vous voyez, on n'entre plus là, on quitte la question de la recherche, de l'analyse philosophique. Et nous sommes en face de ce qu'on appellerait aujourd'hui une anthropologie. Le comment. Autrement dit, faites ceci. La philosophie du première, après l'analyse de la découverte, je veux dire, de la substance, l'ousia, donc, cause, selon la forme de ce qui est, et l'acte, l'être en acte, cause, selon la fin de ce qui est, ce grand problème de la personne. Le comment de l'être humain. N'oublions jamais que toute la philosophie, et surtout la philosophie première, regarde avant tout la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique. On regarde avant tout l'être par rapport à l'homme. Et c'est tout le problème du « je suis ». Je pars de « ceci est » et je rejoins le « je suis ». Je ne pars pas au point de départ du « je suis ». Le je suis se ramène à ceci est. Après tout, le je est un ceci. Pourquoi attribuer au je un rôle plus important que ceci? Point de départ. Je suis un être parmi les autres. C'est l'analyse de l'être, voyez, qui m'oblige à découvrir un rôle particulier de la personne humaine. C'est en analysant le ceci, substance, l'être en acte, que je peux découvrir qu'il y a dans le je suis quelque chose de nouveau par rapport à ceci. C'est très curieux, ça. Et j'ai tout le problème de la personne humaine. Puis-je, en philosophie du vivant, la philosophie du vivant part de l'expérience du vivant. Et ce vivant dont j'ai l'expérience interne, j'ai ce privilège particulier d'être ce vivant qui a l'expérience interne de sa vie. Ce vivant, c'est l'homme. je suis le vivant le plus parfait dont j'ai l'expérience immédiate. Comme je suis l'être le plus parfait dont j'ai l'expérience immédiate. Oui, c'est important de toujours découvrir combien l'homme est présent dès qu'on part d'une philosophie du jugement d'existence. Ceci est. Le je suis est présent dans le ceci est. Toute la philosophie ne peut jamais s'abstraire, se séparer de l'homme. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que la philosophie est une philosophie de l'homme. C'est une anthropologie, c'est très vrai, c'est une anthropologie, mais une anthropologie ouverte à la métaphysique, à la philosophie première, ouverte à la découverte de Dieu. Après tout, l'homme n'est parfaitement homme que quand il découvre l'existence de son origine. Tant qu'il n'a pas découvert l'existence de son origine, il est un orphelin. Un orphelin métaphysique. Enfin, il y a mille façons d'être orphelin. Et être orphelin métaphysique, c'est l'orphelinat le plus terrible. De ne pas savoir d'où je viens. Parce que mes parents, c'est très important quand je suis jeune, mais quand j'ai grandi. Oui, c'est très bien, mais c'est pas indispensable pour faire une autonomie psychologique en moi. Je me suis débrouillé. Alors, ils sont lointains. Tandis qu'au niveau de l'être, il est toujours présent l'être. Être orphelin dans l'ordre de l'être, être orphelin au point de vue métaphysique, c'est quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Parce que je suis un être limité. Parce que je suis un être limité, je ne suis pas tout l'être. Il faut donc, pour me comprendre parfaitement, découvrir l'origine de mon être. Tant que je n'ai pas découvert l'origine de mon être, mon expérience du ceci est, ça s'achève dans le ceci, dans le je suis. Mais ce je suis demande de découvrir une nouvelle expérience, il existe nécessairement un être premier qu'on appelle Dieu. Oui, ça qui est très très important à comprendre, que c'est une nécessité inscrite dans l'ordre de l'être. Je n'allais pas découvrir, j'allais dire, ma recherche philosophique n'est pas complète. Alors vous voyez comment la métaphysique demande de s'achever dans la recherche de la personne, du je suis, et le je suis demande de la découverte de l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent Dieu. La philosophie ne se termine pas à Dieu, elle se termine à l'être premier, qui est la bonté souveraine, qui est absolument un, et que les traditions religieuses appellent Dieu. J'emprunte le nom Dieu aux traditions religieuses. J'utilise traditions religieuses en raison d'employer ce mot pour l'être premier, qui est mon créateur. En philosophie du vivant, qu'est-ce qui se passe? Je pars de l'expérience du vivant. Et ce vivant, c'est moi. Je suis expérimentateur de mon être d'une manière tout à fait privilégiée. Et je dis que ça fait la même chose pour vous. Hein. Je ne suis pas spécial là-dessus. Mais nous avons tous ce privilège unique de pouvoir connaître la vie du dedans, pas seulement de l'extérieur. On connaît le vivant en tant qu'il se meut. Quand je marche, quand je parle, quand j'agis, quand je mange, c'est toujours le vivant. m'empêcher d'aller là où je veux, ben, je me défends. Cet animal n'est pas méchant, mais quand on l'attaque, il se défend. Et l'homme est capable de se défendre. Et c'est encore une expérience du vivant. Se défendre. Mais c'est très significatif. L'animal qui a des dents se défend. Ben, c'est l'homme civilisé qui ne se défend plus par les dents. Alors il prend des armes. Mais ça lui permet de plus en avoir dedans. Il a des armes. Des armes qu'il peut atteindre plus loin. Qui fait que la défense devient un but qui n'est plus la défense légitime. La seule défense du vivant, c'est la défense légitime. C'est très intéressant du reste à penser. Ces développements du vivant qui ne sont pas tout à fait justes. Ça fera justement partie de... J'étudie ce que c'est que le vivant. Je découvre l'âme. Je découvre le corps. Exactement, par mon corps, je découvre mon âme. C'est sûr. Et je découvre mon âme, et en découvrant mon âme, je découvre mon corps. Alors je devrais dire corps, âme, âme, corps. C'est vrai. Première chose que vous connaissez, c'est votre corps. Quand vous étiez gosse, vous n'avez pas dit à votre mère, oh, j'ai une belle âme. Non. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est le corps. Puis on découvre que ce corps est l'habitant, la maison de l'âme. Et une fois que j'ai découvert l'âme, je découvre mon corps vivant, humain. Ça, c'est la première grande question au point de vue de la philosophie du vivant. J'induis mon âme. Mais j'ai une connaissance autre de l'âme que l'induction. Ce qui montre que la connaissance du vivant est plus proche de moi que la connaissance de l'être. Je n'ai pas d'autre connaissance de la substance que par l'induction. Je n'atteins pas directement la substance. Mais j'atteins directement la substance par l'âme. C'est pour ça que parmi les voies d'accès par rapport à la substance, on peut très bien prendre celle de l'âme. L'âme est substance. Or, si j'ai une connaissance affective de l'âme, une connaissance de la présence de mon âme, je peux avoir cette expérience. Il faut le voir. Il faut aimer son âme. C'est une découverte qu'on fait au noviciat. Aimer son âme. Parce qu'avant le noviciat, on ne l'aimait pas. Il y en avait un bon noviciat, si on aime son âme. Là, vous pouvez vous tâter le pouls. Le jour de votre profession, vous aimez votre âme. Vous n'avez jamais pensé à ça. Le jour de votre profession, vous aimez votre âme. Tant que vous n'avez pas fait profession, vous ne savez pas très bien. Mais ayant fait profession, vous aimez votre âme. C'est vrai, ça. Toute la philosophie est faite pour avoir une connaissance particulière de l'âme et de l'aimer. Parce qu'on se suicide quand on n'aime plus son âme. Tant qu'on aime son âme, on ne se suicide pas. On la respecte, on l'aime. On a une connaissance affective de l'âme. Vous voyez, c'est important ça aujourd'hui, parce que c'est important de rappeler qu'on a une connaissance affective de l'âme. Donc, deux connaissances. Deuxièmement, on voit les trois degrés de vie. La vie végétative, la vie animale, la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, la recherche de l'intelligence et la recherche de la volonté. Que nous avons vu. Nous avons vu tout cela. Cette année-ci, qu'un aspect, la volonté. L'année précédente, nous avions vu, on a complété. Alors, est-ce que j'ai fini? Ah! Est-ce que je ne dois pas faire comme pour la métaphysique? La chair, tu poses. Tu comment? Jusque-là, je suis dans la recherche. Vraiment, tu t'y estimes. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Et pour mieux connaître l'âme, je regarde ces trois niveaux. Ces trois niveaux de vie. Il y a trois niveaux de vie. Vous n'avez pas trois niveaux d'être. Vous avez trois niveaux de vie. La vie végétative. La vie animale. Sensible. Passionnelle. Et la vie de l'esprit. Bon, on peut très bien, chacun d'entre nous, arriver à discerner ces trois niveaux de vie. Ces trois niveaux de vie se distinguent vraiment par leur objet et leur fin. La fin de la vie végétative, c'est la procréation. La fin de la vie sensible, il n'y en a pas. La vie passionnelle et sensible est essentiellement anarchique. C'est pour ça que quand je confonds ma vie sensible et ma vie intellectuelle, je suis dans l'anarchie. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'anarchie, vous le dites très bien pour votre vie passionnelle. Tout à fait d'accord. Mais vous n'êtes pas uniquement un être passionnel. Si vous n'êtes pas uniquement un être passionnel, vous devez dépasser l'anarchie. C'est pas une position vitale. C'est une position d'une vie sensible, passionnelle. Puis la vie de l'esprit, de l'âme spirituelle. À intelligence et volonté. Je me pose maintenant la question de l'anthropologie. C'est-à-dire le pose. Le pose de ce vivant. Or, je n'ai pas l'expérience de ma conception. Vous non plus. Une seule personne qui a eu la connaissance de sa conception, c'est Jésus. Mais il ne vous a rien dit là-dessus. C'est le seul. Il a eu l'expérience de sa conception. Très unique, ça. Vous êtes Dieu pour avoir connaissance de sa conception. Mais dans son âme humaine, il a connaissance. La Vierge Marie n'a pas eu, bien qu'immaculée. Mais nous ne l'avons pas eu. Nous n'avons pas l'expérience de notre mort. Parce que nous ne serions pas ici. Mais nous avons eu l'expérience de la mort de nos amis. Si nous n'avons pas encore eu, nous l'aurons. L'expérience de la mort d'être cher. C'est pour ça que je crois que l'anthropologie, au niveau de la philosophie du vivant, commence par la mort. Et ça, c'est important. Et on parle beaucoup de la mort aujourd'hui, hein, en philosophie, avec l'existentialisme. L'être humain est pour la mort. On l'a dit. Sartre. On est pour la mort. Évidemment, c'est pas vrai. Je suis pas du tout pour la mort. Vous non plus. Vous êtes pour la vie. J'espère. Non. Être pour la mort, c'est mettre l'aspect négatif avant. Alors, je ne peux pas être pour la mort. Je ne peux être que pour la vie. La mort, c'est quoi? C'est la rupture de ma vie. C'est la rupture. Dans le langage courant, quand on regarderait, ce serait intéressant à voir tous les proverbes, toutes les manières d'exprimer la mort. Hein? Casser sa pipe. Hein? On voit très bien ça. Ça fait très bien comprendre. C'est c'est l'expression la plus typique. On casse quelque chose. Et c'est pas nous. On est dans la feuille. Casser quelque chose. Quand on a été tout près de la mort, on voit bien. On est. Alors, on peut avoir une attitude chrétienne si tu restes comme ça ordinairement qu'on la vit. Si on est chrétien, donc on vit un abandon. Il y a un abandon complet. Je serais peut-être plus là. Tant mieux, après tout. Et c'est vrai, on vit dans l'abandon complet. Donc on ne vit pas sa mort. Mais on vit l'abandon à sa mort. Si on est chrétien, si on n'est pas chrétien et qu'on est un sage, on s'en remet. l'expérience de la mort, mais je constate la mort. C'est un fait que je constate. Un passage brutal entre le vivant et le non-vivant. Et cette négation de la vie, qui est si difficile à supporter, étant donné que j'ai connu ce sujet qui était vivant et qui n'est plus. Donc c'est l'expérience de cette négation de la vie que j'expérimente dans la mort. Et c'est là où se pose le problème, au plan philosophique. Il n'y a plus de vie extérieure. Est-ce que l'âme demeure et subsiste en elle-même? Puisque j'ai découvert au plan philosophique la question de l'âme et du corps, il y a deux principes en moi de vie. L'un premier, l'autre second, qui coopèrent. Le corps n'est pas au sens strict un principe propre de vie. Il reçoit la vie. Il la transforme. Il la communique. C'est grâce au corps. S'il n'y avait que l'âme, il ne pourrait pas communiquer la vie. Il la communique par le corps et grâce au corps. Le corps est le lieu des rencontres, le lieu de la continuité de l'espèce. Or, la mort met un arrêt à cela. Alors je me pose la question, c'est important de voir à quel moment se pose la question, l'âme est-elle l'âme de mon ami? Est-elle immortelle? Est-ce qu'elle continue de vivre? Est-ce qu'elle continue d'être? Son corps et le corps d'un moribond est devenu un cadavre. Est-ce que son âme existe encore? C'est la première question de l'anthropologie philosophique. Il me semble bien. Je constate le cadavre et je pose la question, est-ce que l'âme existe encore? Est-ce qu'elle subsiste dans son âme, mon ami? Quelqu'un qui m'est complètement étranger, je me poserai avec moins force la question. Et moi-même, je ne pourrais plus la poser. Quand je serai de l'autre côté, je ne pourrais plus la poser. Et ceux qui me connaissent pourront la poser, philosophiquement. Alors, puis-je donner une réponse? Au niveau de la philosophie du vivant. J'ai constaté au niveau de la philosophie du vivant que l'intelligence avait une opération au-delà du physique, au-delà du sensible. La signification profonde de ce que je peux appréhender. Toutes les définitions sont au-delà du sensible. Toutes les définitions, toutes les recherches que je fais. Et celle-là, particulièrement, en me posant la question, est-ce que l'âme est immortelle? La seule réponse que je peux donner, c'est qu'il y a un signe de l'immortalité de l'âme, mais pas de preuve au niveau de la philosophie du vivant. Le signe, c'est ma connaissance universelle. Je suis capable d'atteindre des principes. Je suis capable de connaître l'âme comme source de vie, comme point de départ. Ce au signe parce que je peux vouloir quelque chose d'universel. Vouloir quelque chose d'universel, vous voyez ce que je veux dire? La loi. Et l'amour ne porte jamais sur l'universel. Donc, l'amour que j'ai dans mon cœur, cet amour d'amitié, c'est pour permettre à cet être de vivre pleinement. Mais je ne peux pas savoir s'il va vivre. Je peux émettre un souhait. Étant donné sa connaissance universelle, étant donné sa capacité d'aimer, de se dépasser, tout semble conclure à ce qu'il y a l'âme immortelle. Mais je n'ai pas de preuve absolue. L'immortalité de l'âme fait partie de la tradition religieuse. Et les traditions religieuses portent le problème de l'immortalité de l'âme. Et on comprend très bien. Parce que s'il n'y avait pas d'immortalité de l'âme, il n'y aurait pas d'activité religieuse. Le point de départ de l'activité religieuse, c'est toujours le problème de l'immortalité de l'âme. Donc je ne peux pas répondre, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des signes. Le signe, c'est que je suis capable de désintéressement. De générosité à l'état pur. Alors là, je crois qu'on peut toucher qu'il y a, par le point de vue de l'amour, un dépassement vers l'autre. Il y a un désir de don. Plus intime de moi-même, dans la mesure où j'aime un ami. Le désir d'une continuité de vie. On ne peut pas se mettre dans l'idée qu'il n'y aura rien après. On sera réduit comme un animal à disparaître. Je crois que ça, c'est important. De saisir ce désir. Vous voyez, il y a un signe intellectuel, il y a un signe affectif qui est un désir. Alors je peux me poser la question, à quel moment je pourrais prouver l'immortalité de l'âme? Je ne pourrais prouver l'immortalité de l'âme qu'après avoir compris sa source propre. Après avoir posé la création de l'âme en philosophie première, en théologie naturelle, je peux dans une lumière de sagesse, comprendre que l'âme est nécessairement immortelle. C'est une conclusion philosophique de sagesse. Et vous comprenez pourquoi je peux dire ça. Là, j'utilise le signe universel. J'utilise les connaissances que je peux avoir de moi-même et des autres. Si j'ai la connaissance d'un principe dans l'ordre de l'être et d'un principe substantiel dans l'ordre de l'être, je peux donc dire que j'ai connaissance de quelque chose qui a un absolu dans l'ordre de l'être. Et cette connaissance de quelque chose qu'un absolu dans l'ordre de l'être me montre que moi-même, dans ma connaissance, j'atteins quelque chose qui me dépasse complètement. Et en prouver l'existence de Dieu, de l'existence, ne pouvant démontrer l'immortalité de l'âme dans un jugement de sagesse. Je crois que cela fait partie, justement, de la philosophie première, ou plus exactement de la théologie. Dans un jugement de sagesse. Mais je ne peux pas en philosophie du vivant. La philosophie du vivant est incapable de démontrer que mon âme est immortelle. Mais elle démontre la dignité de mon âme. Je ne peux pas. Elle demande, si vous voulez, d'être complétée par la philosophie première. Donc, au niveau anthropologique de la philosophie du vivant, je ne peux qu'une seule chose, poser le problème de la mort avec acuité et montrer qu'il y a des signes qui montrent que, de fait, mon âme doit être immortelle. Mais c'est en théologie naturelle que je peux seul prouver cela. Et saint Thomas nous dit que c'est l'immortalité, que c'est l'universel abstrait. Et vous comprenez que l'universel abstrait ne peut pas me donner une preuve de l'immortalité de l'âme. Parce que cet universel affecte une intentionnalité et non pas une existence. Quel est le second problème au point de vue anthropologique? Le second pose, c'est tout le problème de la création de l'âme. Dans le point de vue de la conception. Donc c'est le problème de la procréation. Et je crois qu'il faut situer le problème de la procréation tout de suite après la mort, comme le second grand problème d'une anthropologie philosophique. Troisième problème, la naissance et le développement de l'embryon, c'est sûr. La naissance et puis ensuite, jusqu'à la mort. Mais vous voyez, on passe dans une anthropologie, donc on est au niveau du comment.